chemin faisant, nous aurons l'occasion de le faire. Je constate pour commencer que les parcours gastronomiques sont bien plus compliqués que les parcours artistiques. Bon, voilà peut-être la première nouvelle du jour. Alors, je vais peut-être aller le plus vite possible quand même au cœur de mon propos. La première chose, d'abord je veux remercier Marie-Odile et les organisateurs de m'avoir invité et vous de m'écouter, bien sûr. La seconde, c'est que vous le constatez peut-être, j'ai modifié le titre qui vous est annoncé, ça peut vous étonner, je m'en explique en deux mots, hein. D'autant que Marie-Odile me disait qu'elle regrettait presque le titre qui était « Ce que l'art fait » avec les guillemets donc à l'école. La raison est très simple, c'est que craignant de ne pas avoir le temps de tout dire ce que j'avais à dire, ce qui est en train de se confirmer d'ailleurs assez largement, je cherchais un titre qui au fond me permettrait de vous dire l'essentiel en une seule diapositive, hein, mais je n'irai pas jusque là. Alors, ce que l'art fait à l'école, j'ai mis des guillemets parce que ces effets de l'art sur l'école sont très complexes, multiples, et en aucun cas réductible à des aspects, disons, purement didactiques ou pédagogiques. Hein. Je vais m'en tenir à cela. Alors, la leçon de l'art malgré tout, l'expérience esthétique pour tous, je vais commenter simplement. Bon, la leçon de l'art pour moi est absolument essentielle, je le dirai en une seule formule, je crois, je suis convaincu, tout ce que j'ai pu observer, réfléchir, essayer de comprendre, m'en convainc constamment, qu'il y a une véritable puissance éducative de l'art, qui est propre à l'art et qu'on ne trouve ailleurs. Et je ne dis pas éducation artistique, je dis éducation par l'art, hein, éducation à travers l'art. C'est ça pour moi la puissance éducative de l'art, à proprement parler. Donc, si je presse un tout petit peu, eh bien j'expliquerai mon sous-titre. Le secret peut-être de cette puissance éducative de l'art, ceci dans l'expérience esthétique. Moi, je pense qu'un dispositif qui ne permet pas ni aux enfants ni aux enseignants de vivre ensemble une authentique expérience esthétique passe à côté de ce que l'art peut apporter. Et le malgré tout et les trois points, il faut quand même que je les commente parce que c'est absolument essentiel. Enfin, essentiel peut-être pas, mais en tous les cas important. Eh bien, c'est parce qu'il m'arrive d'avoir quelques doutes. Hein, voilà. Je crois à la puissance éducative de l'art. Je crois que l'expérience esthétique appartient à tous et qu'il y a peut-être même un progrès, on peut dire, d'ordre démocratique à permettre à tous d'accéder à cette expérience-là. Je ne suis pas sûr que nous soyons toujours capables de réunir les conditions qui le permettent. J'ai quelques inquiétudes quelquefois sur les conditions politiques, pédagogiques, culturelles qui sont susceptibles d'aider ou de freiner donc cette puissance éducative de l'art. J'en donne deux petits exemples, mais sans polémiquer, hein, parce que c'est plutôt l'objet de débats. Hein. Je m'interroge quelquefois sur cette espèce de collusion à laquelle nous assistons aujourd'hui entre d'un côté le fait que l'art, l'éducation artistique, soit dans les fondamentaux, on nous l'a rappelé tout à l'heure, et puis la mise en place de rythmes scolaires qui, quelquefois, vont à l'inverse dans leurs effets et risquent de vous mener vers une sorte de marché de l'offre, disons, culturelle, pour ne pas dire de manière trop péjorative ce que je pense. Même chose, je m'intéresse et je m'interroge sur la manière dont l'histoire des arts entre dans l'école et pour y faire quoi. Voilà deux chantiers qui, pour ma part, mériteraient d'être pris en considération sous l'angle de l'expérience esthétique. Si l'histoire des arts, au fond, n'est jamais qu'apprendre une nouvelle manière de lire des œuvres, ça, l'école, elle sait faire. Si l'histoire des arts passe à côté de l'expérience esthétique, elle risque de passer à côté de peut-être l'essentiel de l'affaire. Voilà, je dis cela très vite et je sais que ça demanderait beaucoup de réflexion et de discussion. Mais c'était pour commenter ce changement de titre. Alors, je vais vous proposer un exposé en trois temps. Je vais essayer d'être le plus bref possible sur le premier, le second, et de manière à développer le dernier. Le premier, c'est qu'on ne peut pas, je crois, entrer dans cette question de l'art à l'école sans en passer par un certain nombre de préalables de type historique, philosophique, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, hein, bien entendu, mais il est important de savoir que ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel aujourd'hui, hein, que c'est quelque chose qui est en marge dans notre histoire depuis très longtemps. Peut-être que certains d'entre vous le savent ou s'en souviennent. Le premier texte tout à fait étonnant dans ce domaine date de la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les lettres sur l'éducation esthétique de Schiller, le poète Schiller. Lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité que Schiller adresse à un prince-duc de l'époque, un politique tout-puissant, en lui disant « Si vous voulez vraiment permettre à vos citoyens d'accéder à la liberté, commencez par l'éducation esthétique. » Voilà ce que quelqu'un, au sortir de la Révolution française, écrit en Allemagne en 1795. Vous voyez, c'est une affaire qui monte à très loin. Mais je ne m'engage pas sur ce terrain, je vous invite simplement à ne pas le perdre en considération, parce que c'est quelque chose qui concerne notre histoire intellectuelle et éducative et politique dans ses profondeurs. Je ne sais pas si Jack Lang avait lu de très près Schiller, je ne sais pas si Malraux, c'est sûr, avait lu Schiller, mais il est difficile de ne pas les lire ou les entendre sans avoir à l'arrière-plan des propos, des écrits de Schiller. Alors, ces préalables, je vais les réduire à deux ou trois principaux. Le premier, je crois qu'il faut absolument commencer par là, c'est que on dit l'éducation artistique et culturelle est en plein développement, elle est dans nos fondamentaux. Si je devais chercher ce qu'il y a de plus caractéristique, et je ne dis pas de plus répandu, je dis de plus significatif dans ce mouvement, c'est l'entrée des artistes dans l'école. C'est ça qui est neuf. Ce qui est neuf, c'est l'appel que l'institution, l'école, les enseignants font aux artistes, et réciproquement, parce que les choses ne pourraient pas marcher sans cela, la volonté, l'intérêt que bien des artistes, de plus en plus nombreux, manifestent pour une sorte de mission éducative, qu'ils sont prêts, et pas seulement pour les questions d'intermittents du spectacle, je ne vais pas entrer dans ce débat-là pour le moment, il y en a un grand nombre qui le font vraiment par une conviction profonde, même si par ailleurs, après tout, c'est une forme de mécénat comme une autre, de mécénat démocratique et républicain, on va dire que de permettre à des artistes de vivre en ayant ce rôle dans la cité, ça vaut bien les commandes d'État ou les commandes d'Église. Voilà. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel. Et bon, vous parliez tout à l'heure des pourcentages 8%, 18%. On ne sait pas très bien quel est le pourcentage d'enseignants qui font appel à des artistes, parce que souvent les conditions, même simplement financières, matérielles, ne le permettent pas. Mais en jetant un petit coup d'œil sur le papier, Marie-Odile, que vous avez distribué, je vois que tout de même la tendance à travailler avec des artistes est présente ici, en tous les cas, dans ceux que vous représentez. Voilà. Alors, je sais aussi que quand on est enseignant, et notamment enseignant d'art, d'art plastique, de musique, ça interroge. Ça interroge. On ne peut pas s'empêcher de penser, mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des artistes à notre place? Qu'est-ce que ça devient notre rôle dans ce cas? Est-ce qu'on a failli quelque part pour qu'on estime que l'artiste est mieux placé de nous pour le faire? J'ai eu l'occasion de le dire encore récemment dans une autre conférence. Je me souviens, certains d'entre vous y étaient peut-être, un grand colloque à Beaubourg, vous avez d'ailleurs les actes du colloque qui est sur la table là-bas en 2007, deux, trois jours où il était question d'éducation artistique et d'évaluation d'éducation artistique et culturelle, et à la fin, quelqu'un se lève dans la salle, une femme, et dit « Écoutez, moi je suis enseignant en art plastique, ça fait trois jours qu'on est là, et on n'a pas encore parlé des enseignants. » Et donc là, je crois que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Pas du tout dans l'idée que l'enseignement serait menacé, mais qu'il est en pleine mutation de ce point de vue et qu'il faut savoir comprendre et se saisir de cette mutation et ne pas la vivre comme une dépossession. C'est peut-être l'occasion, peut-être d'une redéfinition, d'une certaine manière, du métier d'enseignant et pas forcément uniquement dans le champ des arts plastiques. Alors, des artistes à l'école, donc, je vous en donne simplement quelques illustrations à travers des images sans les commenter. Ben, ici, nous sommes à Lyon. Le Centre Enfance Art et Langage de Lyon accueille depuis maintenant plus d'une dizaine d'années donc des artistes en résidence à l'école maternelle de longue durée. Vous avez sur la table, d'ailleurs, un livre également qui s'appelle « Des artistes à la maternelle », que j'ai coordonné à la demande donc du centre il y a une dizaine d'années environ, qui rend compte de cette expérience, au moins à cette époque-là. Ici, nous sommes au collège. Alors, c'est un collège que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un collège de la région de Montpellier, et même d'un des quartiers d'éducation prioritaire de Montpellier, puisque Le collège des Escoliers de la Mausson est un des collèges réputés comme étant le plus difficile, en tous les cas le plus mal classé en France sur le plan des résultats scolaires. Et à l'initiative de Héros Musique Danse, la DDM de l'Héros, une expérimentation est menée que je suis depuis maintenant 3 ans et 4 ans, une classe expérimentale, tout venant, elle n'a pas été sélectionnée, ce sont les élèves se sont trouvés dans cette classe-là, selon la distribution choisie et aléatoire par les enseignants. Et ils bénéficient d'une résidence artistique de 6 heures par semaine pendant 4 années consécutives, de la 6e à la 3e. Et vous parliez de l'importance tout à l'heure de donner aussi aux enseignants une éducation sensible. Avant même que cette expérimentation se mette en place, nous avons, j'ai travaillé avec les enseignants à la demande des promoteurs du dispositif, pendant une année, nous avons organisé des moments de formation, il y en a eu 3 jours dans l'année, et dans ces moments, les enseignants, nous avions un travail de réflexion, d'analyse, de débat ensemble, mais de pratique artistique. Ils ont pratiqué le théâtre, la danse et quelques autres formes d'art avec les artistes qui étaient susceptibles d'intervenir au cours de l'expérimentation. Et puis, alors là, vous êtes dans un lycée professionnel. Voilà, vous voyez un jeune artiste là, avec ses lunettes qui est un plasticien qui intervient régulièrement dans les lycées professionnels. C'est amusant parce que derrière, tous ces petits gringalets, il l'a fait exprès, bien sûr, sont de futurs camionneurs. Il démonte les stéréotypes, il va voir la classe des camionneurs et puis il leur demande de se mettre torse nu en opposition avec l'idée du type baraqué, musclé, poilu, tatoué. Enfin voilà le type de travail qu'il mène avec eux. Le lycée mis à nu, on peut dire, par l'art même, pour paraphraser Marcel Duchamp. Voilà. Et puis, à l'université aussi, ça existe. Ici, vous voyez, c'est une installation d'un artiste lyonnais qui s'appelle Yves Henry, que j'avais invité à l'université Lyon 2. Nous avons la chance d'avoir un magnifique musée, qui est le musée des moulages, qui est pas très connu, malheureusement. C'est le lieu où toutes les collections de plâtre de l'université, de sa création, sont réunies. C'est amovible, c'est sur des socles, on peut le mettre comme on veut et on y accueille des artistes. Et Yves Henry a déployé une immense structure que vous voyez là, de poutres noires. Il y en avait pour 5 kilomètres dans tout le musée, avec les étudiants. Et les étudiants ont non seulement aidé l'artiste a installé son œuvre, mais ont eux-mêmes créé dans ce cadre-là. Là, par exemple, la statue qui est entourée de bandeaux de couleurs était un travail d'un étudiant, mais derrière, c'est une œuvre de Yves Henry que l'on voit. Voilà. Et puis, pour terminer sur ce point-là, on peut dire qu'en gros, Le mouvement, là, en mettant l'accent sur l'artiste, je mets du même coup l'accent sur la rencontre entre l'enfant et l'artiste. C'est peut-être ça qui est au cœur quand même du dispositif. Les élèves d'aujourd'hui rencontrent un autre type d'adulte dans le cadre de la classe. Les relations qu'ils ont avec eux sont différentes, et les enseignants le savent bien d'ailleurs, de la relation éducative ordinaire. Il y a donc tout un travail qui se fait sur le plan de la relation éducative, extrêmement intéressant, et que bien des enseignants, d'ailleurs, n'ont pas envie, mais découvrent et réintègrent bien souvent dans leur propre pratique. Et vous avez ici l'adresse d'un site, http://exposition-lyon.com, qui est un site encore actif. C'est une exposition que j'ai organisée au Musée des Moulages, justement, en juin dernier. Et si vous allez sur le site, vous pourrez voir à la fois les œuvres des artistes installés, des travaux d'enfants réalisés, d'élèves de maternelle et de l'école primaire réalisés avec eux. Vous avez aussi des conférences. Vous avez par exemple Robin Renucci qui nous a fait l'amitié de venir parler longuement de l'art en éducation. Didier Lecoud, que vous évoquiez tout à l'heure, est venu et on a longuement dialogué. Et il nous a même fait la primeur d'un concert gratuit, donc vous pouvez suivre également sur le site. Pierre Péjus, l'écrivain Pierre Péjus, qui est un un très très grand connaisseur de l'enfance, donc il avait donné une conférence. Vous avez plein d'éléments, voilà. Donc tout ça pour dire, et pas pour faire contrepoint, mais pour donner l'autre aspect des choses. On a vu l'aspect ministériel, donc qui est très pyramidal, on va dire. Des fois, on a envie de la renverser, la pyramide, d'ailleurs, parce que je crois que l'essentiel est en bas. Voilà. Donc, moi, ce dont je voudrais témoigner en contrepoint, c'est le fait qu'il y a une multiplicité considérable d'expériences qui ont lieu sur le territoire français. Après, malheureusement, comme vous le rappeliez, l'assèchement des crédits... et l'abandon du plan langue, les communautés territoriales ont pris très souvent le relais. Ici, le Centre Enfance, Art et Langage, c'est la ville de Lyon qui le finance. L'expérience de Montpellier, c'est le Conseil Général, etc., etc. Bon, pour les Minguettes et l'Opéra, donc ici, le financement est un petit peu différent, mais il existe donc différents relais. Voilà. Deuxième préalable, il faut que je fasse vite parce que les préalables vont être trop longs, mais deuxième préalable, et puis je n'y insiste pas, il est très important aussi de se dire la chose suivante. Ce qui se passe aujourd'hui sur ces questions-là ne concerne pas seulement l'école, mais concerne la société dans de multiples aspects. Vous avez des artistes, certes, qui entrent dans l'école, vous avez des artistes qui entrent dans les prisons, et qui travaillent avec les prisonniers. Vous avez des écrivains qui ont gagné des ateliers d'écriture dans les prisons de femmes, comme ça a été le cas à Lyon il y a quelques années. Vous avez des artistes qui interviennent également dans les hôpitaux. Et vous savez bien aussi comment régulièrement, dans les quartiers, notamment dans les quartiers dits chauds, sensibles, on fait appel aux artistes pour proposer un ensemble, disons, de ressources. Ça, c'est important. Parce que l'éducation, de ce point de vue scolaire, est prise dans un processus d'ensemble. C'est une des questions sur lesquelles, bon, pour ma part, je travaille et continue à travailler. Au fond, je m'interroge, pourquoi nous, aujourd'hui, à ce moment de notre histoire collective, pas seulement en France, mais dans le monde entier, parce que je peux ici témoigner que c'est une interrogation qui est mondiale, pourquoi nous tournons-nous du côté de l'art et des artistes pour tenter de régler un certain nombre de nos problèmes, de nos difficultés, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Si l'art rentre à l'école, c'est pas seulement parce qu'on a eu la bonne idée de donner plus de place à l'éducation artistique, c'est qu'on a pensé que l'art pouvait, d'une certaine manière, remédier à un certain nombre des difficultés, des échecs. Alors on le voit très bien, et je passe au dernier préalable. Donc si on essaie maintenant de voir un petit peu au fond ce qui est visé, quelles sont les raisons, les pourquoi et le pourquoi, pour dissocier les deux termes, on peut très rapidement, et je ne vais pas m'y attarder, mais faire deux paquets. Vous avez d'un côté des préoccupations vraiment de type pédagogique, et la conférence de Jacques Lang, donc du 14 décembre 2000 que vous citiez, de ce point de vue, est une sorte de condensé, on peut dire, de tous les arguments existant dans notre société à un certain moment en faveur de l'art et pas simplement à l'école, puisque ça vaut aussi pour les prisons, pour les hôpitaux et d'autres lieux. Donc alors, bien sûr, la lutte contre l'inégalité, ça a été constamment rappelé. J'ajouterais quelque chose alors qui me serait plus propre, plus personnel, c'est que je crois que c'est pas simplement inégalité de culture au sens de l'accès aux œuvres d'art, mais aussi inégalité au sens d'inégalité d'accès à l'expérience esthétique. C'est ce que je verrais comme un troisième temps de la démocratisation, si vous voulez. Donc, après, l'accès de tous, si possible, en tous les cas, le plus largement possible, aux œuvres, l'ouverture des musées, etc., l'accès à l'expérience esthétique réservée à un tout petit nombre, c'est peut-être ça, une troisième étape, disons, de la démocratisation culturelle. Voilà. Donc, la réussite, lutte contre l'inégalité, la motivation. Combien de fois on nous dit, bon, grâce à cette activité-là, les élèves ont retrouvé goût à l'école, alors que leur appétence dans ce domaine est bien faible, ou en tout cas bien affaiblie. Les intelligences multiples, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un autre argument qu'on trouve très souvent. Grâce à l'art, on permettrait à des élèves dont le fonctionnement intellectuel est moins abstrait et plus sensible, en tous les cas, qui ont une forme d'intelligence différente, d'y trouver leur compte. Et même mieux, on pourrait permettre à tous de développer leur sensibilité au profit, disons, des apprentissages. Un autre thème aussi très souvent entendu, hein, c'est celui de la citoyenneté et même de la socialisation, peut-être au sens large, à la fois comme harmonie collective. Je ne crois pas si je l'ai cité ici, mais je me souviens d'une phrase justement du discours de Jack Lang qui disait à peu près la chose suivante: chanter tous ensemble, c'est forcément fabriquer du lien social. Voilà, donc là, réinventer la chorale comme étant... l'Église le savait bien d'ailleurs, hein, donc réinventer la chorale comme tissu social, voilà, mais aussi au profit de l'harmonie individuelle. C'est-à-dire que l'art serait quelque chose qui, à la fois, génère du collectif et en même temps nourrit de l'individuel. Donc, au fond, c'est tout, on en rêve, hein, une société qui pourrait à la fois satisfaire le collectif tout en privilégiant l'individuel. On est en plein dans l'individualisme démocratique, et on peut dire assez largement que si l'art a la place qu'il a aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans la société ou dans la démocratie des individus. Voilà, en tous les cas, qu'on pourrait rapidement avancer. Et puis, du côté des préoccupations culturelles ou politiques, allons très très vite, hein, mais je pense que chacun l'accordera, on est aujourd'hui dans une société qui accorde au sensible, à l'imagination, au vécu, au corps, à l'imagination, une place qui lui était longtemps refusée. De ce point de vue, on peut parler d'une esthétisation généralisée, hein, de la société. Et ce serait bizarre que l'école reste tout à fait à part. Donc voilà un élément. Revaloriser la qualité esthétique comme... Alors là, j'emploie une formule que j'emprunte à Jean-Marie Schaeffer, comme composante du profil humain. Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Voilà la question. Et est-ce qu'on peut répondre à cette question-là en mettant l'art de côté comme étant simplement une sorte de superflu qui arriverait tardivement une fois que le ventre est rempli et que les activités sociales et le travail... Non, on le sait fort bien, hein. Si on définit l'homme en disant l'homme est l'animal qui enterre ses morts et qui élève des statues, on n'est pas très très loin d'une définition quasi totale. Eh bien, si nous allons jusqu'au bout de ce raisonnement qui est très simple, qui est très évident, dans ce cas, il n'y a pas à tergiverser. L'éducation artistique est forcément une éducation de base, dès lors qu'elle prend en compte cette dimension esthétique, hein, cette composante esthétique, cette conduite esthétique, qui est propre à chacun d'entre nous. Et elle commence de façon extrêmement précoce. Le bébé qui tend le doigt à peine a-t-il commencé à s'éveiller au monde et qui le regarde comme un spectacle, il est déjà dans une relation esthétique avec le monde. C'est-à-dire qu'il ne réclame pas seulement du pain et des larmes, quoi, ni des jeux du cirque d'ailleurs. Hein. Il demande le plaisir d'être là, dans une représentation du monde que l'on marque comme ça du doigt avec une sorte de distance pour le signaler. Donc partons de ce principe que la conduite esthétique est une conduite proprement humaine, présente dès la toute petite enfance, et que du coup il est de notre devoir d'éducateur de la nourrir, de l'enrichir, de la développer. Vous voyez que là, ça va peut-être un petit peu plus loin que dire simplement, comme on l'a fait à une époque, bon, il y a aussi une intelligence sensible. C'est plus que ça. Hein. C'est une dimension anthropologique. J'y viendrai rapidement tout à l'heure. Et puis enfin, ou presque, disons, il y aurait deux autres éléments à ajouter. On a beaucoup dit aussi que seul l'art pouvait donner du sens. Hein, le sensé, le sensible, de Didier Lecoud, qui vous évoquiez tout à l'heure. Avec cette idée très juste que, au fond, le mal qui nous ronge aujourd'hui, hein, puisque nous sommes dans une société fatiguée, à bout de course, qui a l'impression qu'elle va constamment aboutir dans un mur, une fois qu'il y en a un qui tombe, il y en a un autre derrière, etc. Nous sommes particulièrement pessimistes, hein, sur notre devenir. Et précisément, le pire, le mal qui nous ronge, c'est l'insignifiance, c'est l'indifférence. Donc, si l'art peut nous aider à sortir de l'indifférence, de l'insignifiance, du bof, 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 tout se vaut, hein, qui est tout de même assez largement, disons, l'opinion dominante, hein, y compris chez les plus jeunes. Donc, lisez d'ailleurs à ce propos, enfin plutôt écoutez, vous allez sur le site de Mediapart. Hein, donc, et puis vous allez sur les vœux 2014. Et vous voyez Edwy Plenel devant la caméra avec le drapeau. Il a fait une petite mise en scène comme si les vœux présidentiels. Mais il lit le discours que Ariane Mnouchkine, donc la grande comédienne et dramaturge, hein, donc, nous adresse. Et elle dit « Arrêtez de dire à vos enfants qui sont dans un monde fini. Dites-leur que le monde est une création permanente, qu'ils en sont les acteurs. Redonnez-leur ce goût, ce sens de l'avenir. Et ce sens de l'avenir, je ne dis pas que l'art et lui seul en est porteur, mais enfin, il en est assez largement et profondément animé. » Et puis, pour terminer donc là-dessus, j'ai retenu aussi cet élément, toujours d'ailleurs du discours de Jack Lang, hein, l'art pour s'opposer au déferlement de la culture médiatique. Alors, sans aller jusqu'aux extrémités peut-être de ce que dit Bernard Sligler, hein, qui nous parle d'un capitalisme pulsionnel même, hein, qui nous dévore totalement à travers les médias, moi j'ai plus d'optimisme sur notre capacité de création et de résistance, mais sans aller jusqu'à cette alarme extrême, il est vrai que si on laisse la culture et la création uniquement aux médias, si dans notre propre champ d'éducateurs, à travers l'art justement, nous ne sommes pas capables d'apporter autre chose, eh ben, l'uniformisation culturelle, là, est à peu près assurée. Et puis un dernier élément, mais qui est peut-être capital, c'est que j'en suis venu pas très vite, mais assez tôt, à penser que, en fin de compte, l'une des raisons pour lesquelles le ministère de Jack Lang, peut-être même la raison de fond, je vais peut-être étonner, j'espère ne pas choquer en tous les cas, pourquoi est-ce que le ministère a choisi de faire entrer les artistes? Eh bien, je dirais, pour changer l'école. Alors, vous me direz, mais pourquoi des artistes pour changer l'école? Eh bien, parce que, peut-être que dans l'idée d'un certain nombre de personnes, et Jack Lang n'y était pas étrangère, l'école ne peut pas vraiment changer par elle-même. Il faut qu'il y ait quelque chose qui la pousse à changer. Et donc, l'art à l'école, c'est la politique du cheval de Troie. Hein, c'est-à-dire que je mets l'artiste dans l'école, et l'école est obligée de bouger. Vous l'avez tous vécu, d'ailleurs. Hein. Comment faire du théâtre dans une classe sans commencer par écarter les tables? C'est pas possible. Hein. Comment faire sans bousculer le temps scolaire? Dans l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, celle du collège Les Esprits de la Mousson. Collège organisé, comme beaucoup, avec des séquences de trois quarts d'heure. Très vite, ça s'est révélé absolument intenable pour une résidence artistique de 6 heures par semaine. C'est ce découpage en trois quarts d'heure. Donc, on a travaillé l'année de préparation sur des séquences d'une heure et demie, deux fois. Voilà. Ça a marché formidablement. À tel point que le principal du collège, qui était nouvellement arrivé, puisque les changements d'affectation font que quelquefois un responsable prend une affaire en cours, a accepté que cette expérimentation donc, d'un nouveau rythme scolaire soit appliquée à l'ensemble du collège, à la grande satisfaction de l'ensemble du collège. Vous voyez comment, là, le fait d'introduire une résidence artistique a modifié et l'espace et le temps. C'est déjà pas mal sur le plan. Voilà, je pense que une des raisons de ce choix de l'art à l'école, c'est précisément pour faire bouger ce que les sociologues depuis Guy Vincent appellent la forme scolaire, hein, espace, temps, discipline, relation, voire même définition des contenus de savoir. Voilà. Alors, je vais maintenant passer à un second plan. Et qui est tout à fait légitime. C'est bien beau de dire l'art à l'école, c'est merveilleux, mais qu'est-ce qu'il y fait au juste? Qu'est-ce qu'il y produit? Voilà. Et entre les visées et les intentions, il y a souvent une distance, et on nous dit sans arrêt, il faut évaluer. Alors, voilà le maître mot. Aujourd'hui, on n'a même pas commencé à faire, qu'il faut déjà penser à évaluer, à se demander si quelquefois on travaille pour autre chose que pour l'évaluation. Bon. Alors, on ne peut pas y échapper, c'est clair, et en même temps, il ne faut pas s'y enfermer pour de multiples raisons, et ce n'est pas sans problème sur le terrain. Donc, alors, je lis avec vous ces deux phrases que je trouve superbes. Hein, j'espère qu'elles vous font rire, moi, elles me font bien rire en tous les cas. Et vous les trouvez en exergue d'un livre de l'écrivain Barioko qui s'appelle « L'âme de Hegel et les vaches du Wisconsin ». Quand on lit ce titre, on dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là » Et en fait, c'est un petit livre que vous trouvez en livre de poche, d'ailleurs, de musicologie. Il se trouve que Barioko est par ailleurs un grand musicologue en même temps qu'un grand écrivain. Et donc, il s'est amusé à mettre sa réflexion sous deux signes totalement contradictoires qui reflètent assez bien l'idée un petit peu comme ça, l'opinion générale à propos de l'art. Vous avez d'un côté l'art qui peut tout, enfin c'est l'extase absolue, donc en langage hegélien, la musique soulève l'âme au-dessus du sentiment, enfin je vous laisse lire le... Et puis à côté de ça, et ça c'est pas une blague, il y a eu aux États-Unis, à l'Université du Wisconsin, une étude dont les résultats ont montré que la production de lait augmente de 7,5% chez les vaches qui écoutent de la musique symphonique. Alors j'ai envie de dire, il faut savoir ce que l'on veut à l'école. Est-ce que l'on veut augmenter, par exemple, le taux de réussite au même titre que les vaches du Wisconsin produisent du lait? Est-ce qu'on veut élever l'âme des élèves au-dessus de ce monde qui n'en vaut pas la peine? Évidemment, ni l'un ni l'autre. On ne peut pas demander à l'art de tout changer. On ne peut pas non plus lui demander d'être totalement instrumentalisé au profit de quelques effets. Enfin, pour le dire, pas de manière brutale, mais de très simplement, bon, le Centre Enfance, Art et Langage à Lyon, donc des artistes, je vous le disais, en résidence de longue durée, une année, deux années, trois années même, quelquefois consécutives, de longue durée, c'est-à-dire... tiers du temps scolaire, à peu près, de cet ordre-là, et c'était même mi-temps scolaire dans un premier temps. Bon. Certainement, ça améliore la capacité linguistique et de communication des élèves, et on peut souhaiter même que c'est un excellent support pour mieux apprendre à lire. Mais s'il fallait faire ça pour mieux apprendre à lire, ça coûte une fortune qui est hors de question de généraliser. On ne peut pas dire, on va mettre des artistes en résidence pendant... un demi-service d'enseignants dans toutes les écoles maternelles de France pour faire des progrès en lecture. On peut l'espérer que ça le permettra, bien sûr, mais ça ne peut pas être le but. Alors, je poursuis mon propos. La difficulté d'évaluer, je crois qu'il faut le dire rapidement. Bon, je vais passer sur ce diapo qui n'est peut-être pas essentiel. Pour moi, il y a deux difficultés centrales auxquelles il faut absolument se confronter quand on est du côté ou dans le moment de l'évaluation. C'est une opposition entre le singulier et le général et le qualitatif et le quantitatif pour la deuxième donc, difficulté. Bon. La première, je pense que vous l'avez tous vécu, moi je l'ai vécu très très souvent. Vous avez par exemple un sociologue qui vient, qui fait une conférence et qui vous explique que au fond, statistiquement, ben vous l'avez un petit peu dit d'ailleurs tout à l'heure, d'une certaine manière, l'art n'apporte pas autant qu'on le raconte, même on ne peut pas démontrer que ça apporte des avantages particuliers à ceux qu'on a le plus besoin, et il vous montrera même que ce sont ceux qui ont déjà peut-être le bénéfice de la culture qui en bénéficient le plus. Bon, discours bourdieusien, vraiment complètement désespérant, d'une certaine manière, puisque quoi que je fasse, et là, quand vous dites ça, il y a tout de suite quelqu'un dans la salle pour se lever, mais avec vigueur, un enseignant, un animateur, un artiste, qui vous dit « Mais vous racontez n'importe quoi, moi dans ma classe, moi dans mon expérience, moi... » Et c'est vrai qu'il y a constamment des cas singuliers que l'on peut opposer aux statistiques et aux propos les plus généraux. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un constat... là qu'il faut prendre en compte. Comment se fait-il que on puisse à la fois rendre compte de cas extrêmement importants et d'autre part s'en tenir au discours statistique? Peut-être qu'il faut accepter, comme le dit Nathalie Henrich, donc sociologue de l'art, que l'art relève du régime de la singularité et qu'on ne peut jamais savoir si tous les enfants vont en bénéficier nécessairement. C'est chaque fois une aventure individuelle, personnelle. Bon, le problème est de tout mettre de son côté pour qu'un maximum d'entre eux puissent y accéder, et non pas partir du constat que si j'ai pas 50%, ça ne vaut pas la peine de le mettre en place. Même pour les 15-20% que ça concerne, ça vaut la peine. Je vous rappelle, c'est une petite parenthèse, mais qui n'est pas, à mon avis, sans rapport, que beaucoup de choses ont changé dans les travaux des sociologues sur l'échec scolaire, du jour où quelqu'un comme Bernard Charlot s'est dit, bon, au fond, si on s'intéressait à ces 20% d'élèves dont le destin sociologique prédit qu'ils vont échouer, parce que origine sociale, quartier, famille, etc., et qui réussissent malgré tout. Si on allait voir pourquoi et comment réussissent ceux qui sont prédestinés sur le plan sociologique et statistique, hein, bien entendu, à échouer. Ben, voilà peut-être le genre de choses qu'il convient de faire. Donc, privilégier le qualitatif, et ça avait été une des leçons d'ailleurs du grand colloque de Beaubourg, l'appel qui était l'appel terminal était « faites mener des études qualitatives, faites qu'elles soient même spécifiques à chaque art, c'est pas la même chose que d'évaluer l'effet du théâtre, l'effet de la danse ou l'effet d'un atelier d'écriture, sauf à s'en tenir à des critères extrêmement généraux, évidemment ». Donc, bon, voilà ce que je voulais dire. Et puis, dans ce cas, entendons et les artistes, et les enfants, et les enseignants, et les parents. Enfin, bref, élargissons le plus largement possible. Voilà. Je viens de faire une sorte de plaidoyer, hein, en somme, pour élargir le champ de l'évaluation. Donc, j'y insiste à nouveau. C'est même intéressant, d'une certaine manière, parce qu'initialement, il faut bien le dire, pourquoi, dit-on, il faut de l'art à l'école ? Pour les élèves. C'est fondamentalement cela qui est la motivation ou la raison ou disons, le calcul qui peut être fait. Mais quand on y regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que les effets sur les élèves et les enfants, certes il y en a, mais il y en a aussi, et peut-être même plus, je pourrais quelquefois me demander si on ne devrait pas aller jusque-là, sur les enseignants eux-mêmes. Sur les animateurs, sur les médiateurs, bien sûr, mais sur les artistes aussi. Beaucoup d'artistes vous disent à quel point, pour eux, cette expérience est importante dans leur vie d'artiste. Bon, puis aussi dans leur vie de citoyen, de parent, mais dans leur vie d'artiste. Pour vous donner un propos, une illustration, parce qu'il est amusant, je me souviens d'un professeur des écoles qui avait eu donc un artiste en résidence dans sa classe de longue durée, et elle me disait, au début, j'avais l'impression que son cerveau n'était pas fait comme le mien. On ne fonctionnait pas pareil. Des modes de fonctionnement extrêmement différents, par exemple, sur l'idée de projet. C'est quoi un projet ? Un artiste vous répond d'une manière extrêmement différente que vous répondra un enseignant. Un enseignant construit un projet de proche en proche. Un artiste n'a pas du tout ce type de fonctionnement-là. Il a une idée, bon, assez vague, disons, du tout. Hein, et c'est à partir du tout que se met en place, plus ou moins, disons, des éléments. Bon, certains enseignants le vivent mal, d'ailleurs. Ont l'impression qu'on ne sait pas où on va, c'est un désordre complet. Il faut toujours un temps d'adaptation pour ça. Mais en même temps, il y a là quelque chose que une collègue britannique qui travaille beaucoup sur ces questions d'éducation artistique, Pippa Lord, appelle un triangle d'apprentissage mutuel. C'est peut-être un mot que je n'ai pas noté, que je vous propose de retenir, parce que je pense que c'est peut-être là l'une des clés pour analyser ce qui se passe vraiment quand il y a de l'art à l'école. Un triangle d'apprentissage mutuel, c'est-à-dire, certes, les élèves apprennent quelque chose, mais les enseignants apprennent quelque chose, et les artistes apprennent quelque chose, et les trois apprennent les uns des autres. Voilà. L'art à l'école met en place un triangle d'apprentissage mutuel. D'autres disent un troisième espace. Richard Daisy parle d'un troisième espace, d'une troisième dimension. Le mur du fond s'abat, si vous voulez, et quelque chose d'autre s'ouvre. Voilà. Alors, très rapidement, pour me laisser le temps donc, de ce que je croyais le plus essentiel, enfin bon, tant pis. Ce que je vous dis là, disons, ce sont des choses sur lesquelles je crois qu'il est inutile de revenir, au sens où ce n'est pas la peine de réévaluer à nouveau. À chaque fois, on nous redemande d'évaluer la même chose. Là, je m'appuie sur un ensemble de travaux qui sont tous vraiment convergents, notamment sur ceux de Pippa Lord, que j'évoquais. Je ne sais pas s'il y a son nom d'écrit. Non, vous ne l'avez pas là, mais ça s'écrit Lord, L-O-R-D, hein, tout simplement, et Pippa, P-I-P-A. Et vous trouverez un article de Pippa Lord dans, justement, le colloque de Beaubourg 2007. Et voilà, elle distingue, après une enquête extrêmement vaste, qui porte sur des, on peut dire, des milliers d'élèves et des dizaines de lieux, donc une grosse enquête statistique, elle distingue des effets courants, ou les plus courants, des effets moyens, disons, et ceux qui sont un peu plus rares. Et je crois que ce n'est pas inintéressant d'avoir ça en tête. Alors, les effets les plus courants, ce n'est pas pour vous étonner, hein, des résultats affectifs, d'abord, donc des témoignages de plaisir, de fierté, le sentiment d'avoir réussi quelque chose, c'est quand même pas rien, hein, pour des élèves. Ça ne suffit pas toujours à renverser, l'anxiété que génère la scolarité, ça on l'oublie trop, hein, c'est un élément, je vous le dis parce que c'est une des petites déceptions à Montpellier. Une de mes collègues psychologues a fait donc chaque année un ensemble d'entretiens centrés sur les questions d'estime de soi, plutôt. Et c'est très frappant de voir comment vraiment la pratique artistique a beaucoup aidé les élèves à avoir confiance en eux-mêmes, à mieux s'estimer. Mais en même temps, l'angoisse scolaire n'a pas disparu. C'est pas un remède miracle, l'art, non plus. Le collège lui-même aurait à s'interroger quelquefois dans ses fonctionnements et pas simplement en espérant que quelque chose d'autre pourrait changer son fonctionnement. Donc des résultats affectifs, développement personnel, je viens aussi de l'évoquer, estime de soi, confiance en soi, sociabilité, bien sûr, le travail en équipe, la conscience des autres, tout c'est extrêmement présent. Ce sont des classes, je l'ai souvent constaté, lorsqu'elles ont une assez longue pratique, hein, bien sûr, dans ce domaine, dans lesquelles les conflits n'ont pas la violence ou l'hypocrisie que ça peut avoir quelquefois. Je ne sais pas si vous pouvez en témoigner vous-même, mais vraiment, c'est une chose qui est tout à fait constante. La classe artistique de Montpellier, donc les enfants ont fait de la danse en classe de 6e. La danse, c'est tous les corps qu'on expose, les petits, les gros, les moyens, les garçons, les filles, avec la question des genres en plus, avec des classes où il y a 70% d'enfants de culture musulmane, le reste pratiquement gitan, vous voyez, ce sont des milieux très particuliers. Eh bien, dans cette classe-là, il y a peu, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais il y a peu de quolibets ou de méchanceté sur le plan des apparences physiques ou des choses de cet ordre. Ça n'empêche pas que de temps en temps ça arrive, mais ça n'a pas une ampleur extrême. Effet modéré. Alors vous allez être un peu déçu parce que c'est ceux qu'on espère le plus, hein. Donc la créativité, bon, mais elle existe quand même. Alors encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par créativité, mais là, bon, tenons-nous-en une définition générale, hein. Une capacité à penser de manière originale, hein, et d'oser des idées nouvelles, voilà. Le transfert aussi, il y a des enfants qui vous disent que ce qu'ils font là dans la classe, ça les aide à vivre, hein, que ça les fait penser à des choses, dans la famille, dans les relations avec les autres, voilà. Et puis, bon, bien sûr, ça c'est assez évident, mais quand même très important, changement d'attitude vis-à-vis de l'art. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce ne sont plus des enfants chez lesquels on entend ces discours qu'on aimerait bien ne pas entendre dans la bouche des adultes, mais qui existent encore pour tout ce qui est, en gros, art contemporain. Ils ont une familiarité, une capacité critique, au sens de critique esthétique, d'analyser et de discuter, qui est tout à fait frappante. Et les effets les moins fréquents, donc, évidemment, vous voyez, ce sont ceux que sur le plan scolaire, on voudrait voir mis en avant. Donc, alors, moins fréquent ne veut pas dire non fréquent. J'y reviendrai, mais c'est important de savoir quelle conclusion on en tire de ce que je viens de dire. Hein. Compétences donc, en expression et en communication, compétences cognitives. Alors ça, j'y insiste, parce que c'est une chose qui est peut-être une des découvertes, permises par ces études. Je ne parle pas de moi, je parle d'une manière générale sur l'art à l'école, c'est de démonter un stéréotype qui, pendant très longtemps, voyait dans l'art une sorte d'activité tranquille, un peu pépère, hein, au fond, où on se fait plaisir, une sorte de jeu, vous voyez, qui n'engage pas trop. Et ce qui frappe énormément, c'est le sens du travail que ça développe, la concentration des élèves, la capacité à rester extrêmement longtemps présent, attentif sur un travail de longue durée. Quand on voit des enfants de 2, 3, 4 ans, 5 ans, je parle de l'école maternelle, mais c'est aussi vrai, bien sûr, après, être capable de travailler pendant une heure et demie de suite avec un artiste, là où en formation, on nous serine qu'au bout de 10 minutes, il faut changer d'activité, sinon les élèves s'ennuient, il y a de quoi se poser des questions. Dans une société du zapping, si l'école elle-même entretient le zapping en changeant d'activité tous les quarts d'heure, on n'en sortira pas. Et là, il y a une sorte de contrepoison, d'une certaine manière. Les enfants sont capables, très tôt, d'une vraie attention. Encore faut-il que les conditions en soient réunies. Des compétences aussi dans le domaine social et culturel, hein, l'égalité des chances, identité culturelle, mais parce que l'art, ça appelle aussi à la réflexion. À Montpellier, la première année, la résidence chorégraphique, c'était celle de Anne Lopez, la compagnie Les gens sur le quai. Et si vous allez sur Internet, vous verrez qu'une de ses créations s'appelle Duel, donc vraiment le combat. Et elle a travaillé avec les enfants sur le combat, à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la société, dans les films et dans la réalité. Hein, donc, et ça amène nécessairement toutes sortes de réflexions à partir de là. Alors, sur le domaine artistique, c'est pas étonnant non plus, apparemment sur les arts visuels qui ont le plus d'effet sur la créativité, la danse pour le travail en équipe, le théâtre, alors lui est celui qui a le plus large éventail d'effets, mais c'est aussi parce que c'est un, surtout dans les pratiques contemporaines, c'est un art qui recourt aussi souvent au corps, à la danse, à la littérature et à l'écriture, à la musique, donc ce n'est pas. Et puis d'autre part, il y a une longue histoire du théâtre à l'école, hein, bien sûr. Et la musique est celle qui produit les effets les plus réduits, et c'est souvent la plus problématique d'ailleurs en résidence, hein. Ouais, peut-être en raison des nécessités d'une pratique et d'une culture instrumentale déjà, ce qui fait que souvent le choix qui est fait est plutôt celui, c'était le cas par exemple dans la photo que je vais montrer tout à l'heure, de recourir à ceux qu'on appelle plutôt des musiciens qui seraient des plasticiens du son, vous savez, qui travaillent avec, y compris des instruments les plus anodins, les feuilles de papier, les pierres, les... C'est toutes sortes d'objets qui composent à partir donc d'éléments concrets. Voilà. Alors, que peut-on en retenir ? Alors, je pense que vous seriez d'accord avec moi. Hein, donc, c'est pas si étonnant que ça de voir qu'il n'y a rien d'automatique. C'est clair, ça demande des conditions. C'est pas parce qu'on fait de l'art qu'aussitôt on obtient ça. Donc, la vraie question pour moi, c'est quelles sont les conditions et les facteurs nécessaires pour que ce que l'art peut apporter sur ce seul plan-là, parce qu'il y en aurait bien d'autres. Là, je n'ai pris que le plus repéré, disons. Quelles conditions pour que ceci se mette vraiment en marche ? Et puis surtout, si on constate que les effets qui sont scolairement les plus importants, ceux auxquels légitimement on tient, même si on ne doit pas ne voir que cela, si on veut qu'ils aient malgré tout plus d'ampleur, demandons-nous dans ce cas... Comment faire ? Quelle serait une bonne pédagogie de l'intervention artistique qui fait que ces effets qui sont les moins fréquents, c'est-à-dire qui sont les plus difficiles, forcément, s'ils sont moins fréquents, c'est que ça ne va pas de soi. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que... C'est peut-être là qu'il faut être particulièrement inventif sur le plan pédagogique et sur le plan des partenariats. Parce que sur l'estime de soi, sur le bien-être, généralement, c'est assez visible et ça va relativement vite. Enfin, sauf quand ça se passe mal avec l'artiste, ça peut arriver aussi. Hein. Mais quand ça se passe bien, il y a un effet, un bénéfice qui est assez immédiat. Sur le reste, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, c'est la raison pour laquelle, et je vais terminer un quart d'heure à peu près, hein, c'est ça qui me reste, là-dessus. Moi, je crois que il faut creuser beaucoup plus profond, si je puis dire, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à ces effets que je viens de dire repérables et à peu près mesurables, mais avoir un propos, disons, plus philosophique ou plus anthropologique, c'est-à-dire s'interroger sur ce qu'est l'expérience esthétique et de voir quand et comment les artistes qui interviennent et les enseignants qui travaillent avec eux permettent à cette expérience esthétique d'être en place et de produire ses fruits. Alors je vais en évoquer quelques éléments. Bon, le premier élément, et c'est peut-être une chose qui peut étonner, hein, mais ce qui est essentiel d'emblée dans l'expérience esthétique, c'est qu'elle vous dérange. Voilà. C'est qu'elle vous dérange. C'est pas ça, quelque chose qui vous fait du bien, d'un coup on est bien, bon, c'est... Non. il y a quelque chose qui vous trouble, ça ne veut pas dire qu'on est mal, hein, mais qui vous interroge. Et j'ai reproduit ici le propos du peintre Gérard Garouste, hein, dont vous connaissez la création de l'association La Source, hein, donc dans un petit village de Normandie qui s'appelle La Guéroulde. Il y a de quoi, pas d'une quinzaine d'années maintenant, donc Gérard Garouste a créé une association dans une usine désaffectée, et il y accueille à la fois des artistes en résidence, qui sont généralement des artistes, il a un carnet d'adresses important, puisqu'il est un artiste très très connu, et des enfants, disons, en difficulté sociale ou scolaire, avec cette idée que, grâce aux pratiques artistiques, ces enfants devraient aller mieux, hein, en tous les cas. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer. L'interview totale se trouve dans le livre des artistes à l'école maternelle, mais vous pouvez y accéder aussi dans une revue en ligne qu'il a republiée, retravaillée il n'y a pas très longtemps. C'est la revue Sens Public. Hein, donc vous tapez Sens Public sur un moteur de recherche, vous tombez sur cette revue, et là, si vous tapez Gérard Garouste ou mon nom, peu importe, vous trouverez donc l'entretien. Et donc, je dis à Gérard Garouste, mais qu'est-ce qui vous permet, vous, artiste, pour qui vous prenez, quoi, en gros, hein, sous prétexte que vous êtes artiste, vous descendez là, de votre château, vous venez aux cuisines, et puis vous nous dites, nous, on va régler les problèmes que des éducateurs chevronnés n'ont pas réglés depuis fort longtemps. Et je lui dis, mais au fond, qu'est-ce que vous apportez de particulier? Alors, il me répond, alors c'est à peu près, bien sûr, c'est réécrit, ce que l'artiste apporte d'abord, une nécessaire et salutaire déstabilisation. Voilà le premier propos. Et pourquoi? Eh bien, parce que ces enfants, dont on n'arrête pas de nous dire leur problème, c'est qu'ils n'ont aucun repère. Ils ont perdu les repères, ils n'ont pas de normes. Gérard Garouste dit à peu près dans son propos, non, c'est pas ça. C'est pas les repères qui leur manquent, c'est la capacité à créer des normes, à les travailler, à les déplacer. Ils ont un rapport à la norme qui est défectueux d'emblée, parce que pour eux, une norme, c'est uniquement un truc qu'on applique ou contre quoi on se rebelle, mais jamais quelque chose dont on est le moteur. Autrement dit, ils n'ont rien compris à la démocratie, d'une certaine façon, on peut le dire comme ça. Eh bien, pour Gérard Garouste, ce que l'art apporte à ses enfants, c'est justement une confrontation avec les normes. La capacité à remettre en cause les normes, parce que ça leur a manqué très très tôt, cette chose-là. Et il a cette image tout à fait étonnante. Hein. Il dit ce qui a manqué donc à ses enfants dans leur toute petite enfance, c'est quelqu'un à côté d'eux pour mettre la table correctement et dire « regarde ». Pour Gérard Garouste, l'esthétique comme conduite, et comme conduite normative, commence dans la table bien mise, et pas avec une pizza dévorée à toute vitesse devant un match de foot. Voilà. Il y a un cérémonial comme cela dans le rapport au monde qui fait partie de la vie quotidienne. C'est que l'esthétique, elle n'est pas simplement dans la fréquentation des grandes œuvres. Elle est là dans le quotidien, dans l'art de vivre, tout simplement. Je mets ça avec les guillemets, dans ce que j'avais appelé un geste esthétique partagé, hein, pour prolonger le propos de Garouste. Alors voilà quelques images issues d'une classe maternelle ici, bon, qui illustrent cette espèce de déstabilisation. Là, l'artiste avait proposé aux enfants une installation labyrinthique. Là, c'est un enfant qui découvre le musée des moulages, et cette main blanche sur cette statue donc, était assez illustratif. Et bien sûr, l'installation de Yves Henry au musée des moulages était fondamentalement une déstabilisation, puisqu'il avait appelé ça le chaos, hein, et avait mis à bas toute l'histoire de l'art, et en montrant comment l'art contemporain pouvait en jaillir. Ou encore, ici, c'est une photographie de l'artiste Arnaud Théval que j'évoquais tout à l'heure, en lycée professionnel. Et donc là, vous voyez les étudiants qui sont dans les cabines. La deuxième chose qui me semble importante dans une authentique expérience esthétique, c'est qu'elle est toujours plus ou moins la redécouverte de la première fois. Je m'explique. Je vous ai noté là en haut le propos d'une chorégraphe dont j'ai oublié malheureusement le nom, Mais j'ai entendu très souvent, sous des formes très comparables, y compris au théâtre, voire même en peinture, en musique. Voilà. C'est une chorégraphe qui s'adresse donc à ses danseurs en répétition. Et elle leur dit la chose suivante. Elle leur dit, voilà, tu vas avancer, tu vas marcher, mais là, essaie de marcher comme si tu inventais la marche. Voilà. Essaie de marcher comme si tu marchais pour la première fois. Eh bien, la chorégraphe que j'évoquais tout à l'heure, Anne Lopez, faisait la même chose avec les enfants de 6e, et ils le font encore aujourd'hui en classe de 3e, puisqu'ils sont en 3e. Donc, le propre de l'art, et c'est pour ça que peut-être il rouvre les possibles. On revient à la première fois, on peut rejouer la première fois. On peut retrouver ce moment où on est capable de produire la première fois. Autrement dit, la première fois, elle n'est jamais au début. Hein. Elle vient après. Une première fois, ça se construit. Et ça, justement, c'est le propre de l'art. Et vous pouvez l'entendre dans la plupart des propos d'artistes. Le nombre, par exemple, Peter Hodvoss, qui est un compositeur et chef d'orchestre contemporain, disait, je vais demander... en gros, comment il conduisait un orchestre, il me disait, moi, j'essaie de retrouver l'impression que j'ai eue quand j'avais 12 ans, la première fois où j'ai entendu un orchestre symphonique. Je me mets dans cet état-là de retrouver la première fois. Eh bien, essayer, je sais bien que ce n'est pas facile, mais essayer avec les enfants de rejouer dans le sensible, justement, cette redécouverte-là, dans ce qu'elle a de plus simple, de plus immédiat. Un musicien comme Jean-François Estagier, j'ai souvent cité cet exemple-là parce que je le trouve tout à fait exemplaire. Musicien, bon, relativement connu, compositeur, membre du Gramme, il lui arrive très souvent d'intervenir avec, par exemple, des artistes extrêmement chevronnés. Il a travaillé avec, je crois, les danseurs de l'Opéra de Paris, avec ceux de Lyon aussi, mais il intervient aussi avec des enfants autistes, avec des patients Alzheimer, enfin, vraiment toutes sortes d'interventions. La première chose qu'il fait, c'est de disposer sur le sol une couche de feuilles mortes et il leur demande de marcher et d'écouter le bruit et de s'imprégner des sensations qu'ils ressentent. Et ça, il le fait avec les plus chevronnés des musiciens. Il leur demande de retrouver la première fois que peut être l'expérience sensible. Alors, ça peut paraître extrêmement ambitieux, mais en même temps, ça passe par des moyens très simples, hein, paradoxalement. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de marcher dans les feuilles mortes en essayant simplement d'écouter et de sentir? Et il m'arrive quelquefois de dire, avant de les emmener au musée, commencez par là. Sinon, c'est même pas la peine d'aller au musée. Parce qu'au musée, ce qui est intéressant, c'est que sur les murs, il y a des tableaux qui ont été faites par des hommes et des femmes qui, justement, ont marché dans la forêt. Et s'il n'avait pas eu cette marche, cette écoute, cette attention au monde, il n'y aurait pas d'œuvre d'art. Donc, permettre à chacun, y compris d'accéder à la culture de l'œuvre, ça passe par l'expérience esthétique. Sinon, on est toujours un élève, quoi. On apprend des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est les autres, mais ce n'est pas nous. Et par ailleurs, on a du mal à comprendre. Donc, la première fois, voilà donc quelques images qui pourraient peut-être illustré. Entre parenthèses, quand de jeunes enfants travaillent avec des artistes, ils ne font pas de l'art enfantin. Ça c'est intéressant aussi de voir comment il y a une singularité du travail de l'enfant à travers cette expérience. Là, ce sont les musiciens qui travaillent avec les collégiens donc, de la Mosson. Et ici, ce sont les ouvriers, donc... qui expérimente la première fois, mais sous un angle assez curieux cette fois, parce que on dit toujours l'art est bienvenu à l'école. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, et il y a bien des manières d'en témoigner. Alors celle-ci en est un, même vous pouvez pas le lire, mais je vous l'expliquer. Arnaud Théval, donc ce photographe arrive, dit bon, je veux travailler avec la classe des camionneurs. Alors il arrive tapis rouge, hein, parce que la DRAC est derrière, accueillir un artiste connu. Tout le lycée est entièrement disponible, assez petits souliers, on va dire, et grand tapis, hein, voilà. Et puis progressivement, quand ils commencent à les mettre torse nu, qu'ils tatouent leur doudou comme ça sur, ils commencent à faire des trucs immenses, et puis que les filles disent mais pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir comme un diamant dans le nombril, alors qu'ils se promènent à moitié à poil avec le photographe. Enfin, tout ça monte en épingle. Il y a eu, et ça se termine par un vernissage en catimini, donc à la porte du lycée, sous la pluie, hein, et pas dans la grande salle d'apparat. Donc, l'art dérange, mais tout le monde n'est pas toujours prêt à être dérangé aussi. Hein. Il faut aussi accepter d'être dérangé, sinon il ne peut pas produire ses effets. Voilà. Troisième élément, mais c'est une conséquence de ce que je viens de dire, hein, n'oublions jamais que le temps de l'enfance, et je l'entends au sens large du terme, bien sûr, est un temps privilégié pour l'expérience esthétique. Si on n'a pas la chance de vivre dans ces moments-là, ces expériences-là, ce sera plus compliqué après de les... C'est pas exclu, Dieu merci, hein, on peut y revenir. Mais au moins, en tant qu'éducateur, donnons-nous cette tâche-là de nourrir l'expérience esthétique des enfants, parce que c'est nécessaire à leur vie d'adulte et pas simplement à leur vie d'enfant. Bon, voilà encore quelques illustrations que je ne vais pas commenter. Bon, mais celle-ci, c'est une photographie qui a été faite par une des artistes, justement, qui intervenait au musée des moulages que j'évoquais tout à l'heure. Bon, j'ai un peu anticipé, hein, et je le dis là d'une autre façon. Donc, nourrir dans l'enfance le temps des expériences esthétiques, voilà peut-être la nouvelle ambition démocratique, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre que la conduite esthétique soit vraiment le lot de tous et non pas l'apanage de quelques-uns. Voilà. Et puis garder le goût de la première fois. Alors ça, je pense, c'est très important aussi. Si, enfin, me semble, hein, l'expérience tendrait à me donner raison sur ce plan, il faut aussi que l'intervention de l'artiste dans l'école soit une aventure pour l'enseignant lui-même. Que d'une certaine façon, lui aussi revive une première fois, hein, à travers ce qu'apporte l'artiste. C'est essentiel qu'il y ait une expérience partagée. Voilà, c'est-à-dire que l'expérience esthétique doit être partagée entre l'artiste, l'élève, l'enseignant, et non pas dévolu par l'artiste aux élèves, parce que d'abord dans la dévolution il n'entre pas dedans, ni dans le retrait et l'ignorance de l'enseignant qui n'en ferait que l'affaire, disons, de l'intervenant et plus du tout la sienne, quitte à corriger les copies. Et malheureusement, ça arrive quelquefois, en attendant que ça se passe. Ces choses-là ne sont pas fréquentes, mais arrivent tout de même. Voilà. Alors, mon dernier point, sans le développer, je vais simplement le situer, c'est que, je disais, il faut creuser plus loin, et si je vais encore plus loin, après avoir insisté sur la première fois, comme je l'ai fait, sur le temps de l'expérience esthétique, enfin, etc., il y a un dernier échelon, enfin un dernier étage, plutôt un dernier fondement, ce serait plus juste de le dire comme ça, c'est que, dans toute expérience esthétique, il y a quelque chose qui relève du jeu, du symbole, de la cérémonie. Je n'ai pas le temps de le développer plus que ça, donc je vais le laisser en état, mais je peux vous renvoyer, parce que dans une publication récente, la Revue internationale des sciences de sport et de l'éducation physique, la revue STAPS, donc, vient de publier son dernier numéro, donc, de l'automne 2013, numéro 102, qui porte sur l'artistique et le sensible, et m'avait demandé un article d'introduction. Donc, ces éléments-là sont un petit peu plus développés. J'en dis un mot très rapidement, hein, avant de... Bon, je conclurai pas, j'en resterai là. Pourquoi le jeu? Eh bien, parce que, si on se situe sur un plan, enfin, philosophique ou de philosophie anthropologique, bon, chacun sait que le jeu est propre à l'humanité, bien sûr, hein, mais qu'est-ce que c'est que le jeu exactement sur le plan anthropologique? Un philosophe comme Gadamer l'a défini très bien en disant que il y a jeu partout où il y a surcroît de vie. C'est-à-dire qu'il y a jeu là où la vie déborde. Un enfant qui joue, c'est un enfant qui déborde de vie. Et donc, du coup, quand la vie est pleine, qu'elle déborde, elle a besoin de se donner en spectacle. Voilà. Le théâtre est né de là, hein, assez largement. Donc, ce mouvement de la vie. Et le plus important, c'est que quand la vie, disons, se donne une image d'elle-même, hein, Cette image nourrit la vie en retour. C'est une expérience esthétique très simple que chacun a vécue. Hein. Vous allez au cinéma, vous voyez un film, vous sortez de là et vous ne voyez plus le monde de la même manière. Il y a quelque chose dans votre regard qui fait que, même un arbre par exemple, un arbre est filmé d'une certaine façon, et c'est un petit peu comme si vous voyiez un arbre pour la première fois. Voilà, donc ça c'est la puissance de l'image d'art, hein, que d'amplifier le réel et de le nourrir donc du même coup. Bon, le symbole, je n'ai pas le temps de développer, là je m'en excuse, mais en deux mots, disons que, pour le comprendre, là, je me référerai à nouveau à Gadamer. Gadamer nous rappelle que le symbole dans la Grèce ancienne est en fait une coutume d'hospitalité. Je vous dis en deux mots comment ça se passe. Hein. Lorsque vous receviez un hôte, au moment de se quitter, vous preniez une pièce de poterie, une coupelle, vous la coupiez en deux, vous voyez, signifié, hein, on est là sur ce registre-là, et chacun part avec sa moitié, avec bien sûr tout ce que ça peut projeter dans le futur. Hein, donc, à l'avenir, si vous recevez quelqu'un et qu'il vous donne l'autre moitié, vous lui devez l'hospitalité que vous avez reçue, si c'est son fils ou ses descendants, etc. Et l'idée derrière, c'est que finalement, l'œuvre d'art est fondamentalement quelque chose qui se partage. C'est même peut-être ce qui est le plus commun, hein, ce qui réunit. Au-delà du temps. Donc. Et quant à la cérémonie, c'est bien simple. Je redonne très vite quelques photos. Pourquoi ? Eh bien parce que l'art est fondamentalement une expérience du temps. Et là, on rejoint peut-être l'idée tout à l'heure de la concentration. Le temps de l'expérience esthétique, ce n'est pas le temps de l'affairement. C'est un temps qui me contraint, mais dans le plaisir, bien sûr, à m'arrêter. Dans l'expérience esthétique, il faut que je m'arrête. Si je ne m'arrête pas, il ne peut rien se passer. Si je traverse les feuilles que j'évoquais tout à l'heure à toute vitesse en étant pressé d'en finir, non. Il faut que je me donne au présent, que je me donne le temps du présent et que je le vive pleinement et que je vive pleinement un temps qui vaut pour lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas produire quelque chose, ce n'est pas mes affaires qui vont avancer, ce n'est pas mon travail qui va progresser. Non, je vis ce moment-là pour lui-même. Et ça, c'est fondamental dans l'expérience esthétique. Et je pense que sur le plan éducatif, c'est profondément éducatif dans un monde comme le nôtre, où on vit dans un faux présent, justement un présent qui est toujours effacé, dans lequel on ne s'arrête jamais, et on court toujours après le temps, les compétences, etc. Prendre le temps du temps, comme dirait l'autre, ou donner du temps au temps, pour reprendre une célèbre formule, c'est peut-être important. Voilà. Bon, j'en reste là, parce que si on veut avoir 10 minutes de questions, j'ai été trop long. Merci.
Non, je ne crois pas que c'était trop long. Mais moi, je ne vais pas prendre la parole. Qui souhaiterait, là, dans les 10 minutes qui viennent, avoir la possibilité de questionner Alain Kerlan ou d'émettre un avis, une remarque une...
Critique, opposition. Oui.
Au niveau éducatif, par exemple, on accorde beaucoup d'importance au moment où l'enfant décroche la lecture. Or, en fait, si on pose la question à tous les adultes ici, personne ne s'en souvient. Par contre, si on essaye dans les souvenirs de voir ce qui a laissé une trace dans notre personne, c'est souvent des sentiments d'émoi, des sentiments où tout d'un coup on a été en résonance, qu'on a dit quelque chose à haute voix devant tout le monde, ou bien qu'on s'est mis en jeu. Et en fait, on devrait peut-être interroger ça, parce que c'est quand même ce qui nous construit et ce qui fait que quand on est face à des heures, etc., on est en résonance avec des choses qu'on a à l'intérieur et qu'on a peut-être oubliées.
Avec une mémoire sensible, c'est cela, oui. Oui, qui vaut la peine d'être nourrie. Donc, vous me faites penser, il y a pas mal d'années, j'ai enseigné en école normale, j'ai commencé ma carrière en école normale, formation des instituteurs. Et puis, il y avait une petite chose que je m'amusais à faire de temps en temps avec les élèves maîtres, comme on disait à l'époque, qui allaient prendre la classe pour la première fois, donc pour tout premier stage. Hein, et je leur demandais de noter sur un petit bout de papier ce que ça évoquait pour eux, la classe. Et c'était souvent des aspects sensibles, par exemple l'odeur de la craie. Dans un monde où il n'y a plus de craie en plus, puisque la plupart des tableaux sont des tableaux feutres ou des choses comme ça, l'odeur de la craie venait au premier lieu des éléments évoqués. Oui.
Parmi les dizaines de questions que nous pouvons vous adresser, monsieur, en rebondissant sur votre dernière remarque, parler du temps suspendu, en quelque sorte, de l'expérience sensible, l'expérience esthétique, et par rapport au cadre qui doit sans doute nous réunir ici, du parcours dont vous avez parlé aussi, monsieur le Comte, du parcours d'éducation artistique et culturelle,
à votre avis, où peut se trouver le continuum, la cohérence, l'équilibre, la continuité entre ces temps.
Oui, très bonne question. Parce que, effectivement, bon, le terme de parcours, vous l'avez noté tout à l'heure, est très étonnant, plein d'ambiguïté. Un parcours, c'est un truc dont on a envie d'avoir fini le plus vite possible, là aussi, quelquefois. Mais en vous écoutant, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais je me disais, mais par exemple, quand on dit un parcours de santé, est-ce que ce n'est pas tout le contraire d'une éducation à la santé, d'une certaine manière, qui m'éviterait de faire le parcours, quoi. Si j'ai une bonne éducation à la santé, je n'ai pas besoin de me livrer à un parcours de santé, vous voyez. Enfin, un parcours de santé est une sorte de santé en raccourci, quoi, de santé digest, alors que ça demanderait le temps de la santé. La santé, c'est un travail de tous les jours, enfin, sur soi-même, une éducation durable, pour le coup, et vous mettez le doigt, je crois, sur une vraie difficulté, mais je pense que tout le monde est conscient. Si le parcours se réduit justement à être une sorte de carnet de bord, comme ça, dans lequel je vais cocher ce que j'ai fait, bon, c'est absolument dramatique. Il vaut mieux en avoir vécu qu'une seule expérience, pleinement, que trois, un peu comme un rallye, si vous voulez. Bon, c'est le plaisir du rallye, mais bon, c'est le rallye qui est intéressant, c'est pas le monument devant lequel un rallye touristique, c'est pas du tourisme, c'est souvent c'est un rallye. C'est une vraie question. Et vous savez, il y a plusieurs noms qui ont été évoqués là par vous-même, donc Marie-Christine Bordeaux, donc Pascal Collin, Didier Lecoud, et quelques autres. Il se trouve que nous avons créé ensemble avec Robert Rinucci notamment. Donc une association, ou un collectif plutôt, qui s'appelle Pour les Hacks, c'est-à-dire pour l'éducation par l'art, hein, voilà. Et c'est pareil, on a un site, vous pouvez y aller, vous tapez Pour les Hacks, hein, P-O-U-R-L-E-A-C, vous voyez. Et on avait commencé par une interpellation politique, donc avec un article dans le journal Le Monde qui s'appelait « L'éducation artistique, c'est maintenant ». D'interrogation. Ce n'est pas, sans vous rappeler, un célèbre slogan de campagne récente. Et on a été reçu par Aurélie Filippetti, donc, notamment sur ces questions-là. Et une des idées que nous avions mises en avant, c'était qu'il fallait absolument, dans ce cas, que dans la formation des enseignants, chaque enseignant puisse vivre un véritable parcours artistique et culturel. S'il n'y a pas en amont ce vécu-là chez l'enseignant, pourquoi il y en aurait un chez les élèves? Donc dans la formation, dans les ESPE, il faut bien que cela y soit. Et se posait également une question qui n'est pas aisée à régler, la question de la validation, de l'évaluation, parce que on sait bien ce qu'il en est. Quand c'est pas pris en compte dans, disons, l'évaluation scolaire, bon, ça n'existe pas. Si c'est pris en compte, c'est détourné, on va dire. Hein. Alors, comment faire pour que des parcours artistiques et culturels aient une sorte de légitimité institutionnelle auprès des enseignants, auprès de l'établissement, auprès des parents aussi, hein, donc soit pris en compte, on va dire, sans que ça devienne simplement une note de plus, impossible à mettre, qui ne veut rien dire. À l'université, on a un système, pour ça c'est les crédits, hein, tout simplement. Qui a fait le parcours culturel bénéficie des crédits correspondants. Les étudiants, par exemple, qui étaient avec Yvan Ry au Musée des Moulages, dont je vous parlais tout à l'heure en vous en montrant une photo, on ne leur a pas mis une note. Simplement, il se trouve que l'unité d'enseignement dans laquelle était inscrite cette aventure était dotée de, je ne sais pas, 3 ou 5 crédits, et tous ceux qui l'avaient fait bénéficiaient de ces crédits, et donc ça pouvait avoir sa place. Enfin voilà, mais vous avez tout à fait raison, il y a une sorte de, peut-être presque de contradiction entre le terme de parcours qui a l'air de suggérer que, au fond, on va passer, quoi. On sait bien qu'on ne peut pas tout faire, alors on va essayer de voir. Et puis, ce temps dont je parlais, c'est vrai.
Eh bien, je voulais vous remercier, enfin, Monsieur Dupont et vous-même, là, pour les propos tenus, parce que je pense que ça nous éclaire bien sur notre travail. Moi, ce que je crois fondamentalement sur le parcours et sur l'idée du folios qui sera mis en place, c'est que c'est une idée de mémoire. Je pense qu'on manque beaucoup de mémoire de ce qu'on a vécu et que l'idée de ce fameux parcours qui sera, j'espère, repris par les enseignants, repris par les parents au travers du document qui va nous être proposé... J'espère incessamment, dans le cadre du folios, permet de créer cette mémoire parce que l'élève oublie. Et l'élève, le fait qu'il n'ait pas le temps de se poser quelquefois et de se réinterroger, je pense que cette mémoire, il en a besoin et que nous l'entretenions. Mmh. Et dans ce parcours, pour moi, ça crée cette mémoire. Et c'est en ça que je crois à ce parcours.
Oui. À la fois, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, j'ai cette crainte que ça apparaisse comme un exercice d'écriture scolaire qui déplace le problème. Je vais donner simplement une image qui m'avait beaucoup frappé dans le film que tout le monde a vu, ou presque, Entre les murs. Hein, donc, il y a une scène qui est extrêmement passionnante de ce point de vue, vous vous en souvenez sans doute. Bon, le jeune homme qui est au cœur du film et qui va d'ailleurs être exclu du collège à la fin du film, à un moment, l'enseignant, le prof de français, là, parvient à le raccrocher. Hein, donc, parce qu'il accepte qu'il fasse le portrait de sa mère par la photographie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Donc, le jeune vient avec une très belle photographie. Et l'enseignant le félicite et est certain d'avoir enfin réussi et lui dit, bon, maintenant est-ce que tu pourrais mettre un petit commentaire? Et là ça bascule parce que l'élève le reçoit comme finalement ce que tu as fait est insuffisant, la vérité est ailleurs. Oui, c'est un petit peu ça la difficulté, comment faire en sorte que dans un journal de ce type il faut réfléchir à sa forme. C'est très très important de réfléchir à sa forme. Par exemple, un collègue comme ça, un peu iconoclaste, Rémy S, qui était maintenant en retraite à Paris 8, qui lui fonctionnait uniquement, la seule évaluation qu'il ait jamais faite de sa vie avec ses étudiants, c'est leur demander de tenir un journal dans lequel non pas ils allaient consigner leurs notes de lecture, hein, mais ce qu'ils avaient pensé d'un tel et un tel, des témoignages personnels sur Aristote, sur Platon, sur... Alors, est-ce que c'est formateur ou pas? On peut aussi s'interroger, hein, parce que la part purement subjective dans ce moment-là... Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y a une forme à chercher. Vous avez raison. Quelle forme? N'excluons pas, par exemple, que la photographie puisse être une manière de rendre compte de ses expériences. De la même façon qu'il y a des thèses d'artistes, ça existe à l'université, on leur demande pas forcément de faire donc un doctorat de 500 pages. On pourrait imaginer des formes comme cela, qui accueille le parcours, enfin plutôt l'expérience du parcours, c'est ce que vous disiez, mais comment, quoi. Si vous voulez faire un film, un reportage photographique, chorégraphie, un journal, le plus ouvert possible.
Baudelaire disait dans la curiosité esthétique que le meilleur compte-rendu d'un tableau peut être un poème. Hein.
Par exemple, oui. Par exemple. Mais si on réussit ça, alors là, on aura le sommet.
Je voulais revenir sur un de vos propos, en particulier sur... j'ai appuyé sur... Oui, Je voulais revenir sur un de vos propos. Sur...
Bon, je pense qu'on a entendu. Oui, la...
les effets les plus espérés sont aussi les moins fréquents.
Hein. Oui, voilà. Oui.
Et revenir sur ce que disait donc Monsieur Dupont tout à l'heure, donc pour reprendre le barbarisme de la collègue de vendredi, que le parcours allait être soclé et que le CSP réfléchissait donc sur un référentiel. Le risque, me semble-t-il, dans les établissements, hein, par l'expérience que j'ai du terrain, c'est justement d'instrumentaliser le parcours. Hein. Oui. Bon. Donc, est-ce que vous pensez-vous que le fait d'avoir un référentiel est une bonne chose pour l'évaluation du parcours ?
Ben, il me semble que le socle est déjà, de ce point de vue, une référence. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous avons travaillé, puisque Collège de Montpellier, le problème se posait. Hein, il fallait bien donner des signes. Imaginez des parents qui acceptent que leur gamin, alors qu'ils n'en pensent pas moins, fasse 6 heures de danse par semaine. Et il faut bien leur apporter quelque chose qui, sur le plan scolaire, soit un peu visible. Et bon, c'est le socle qui a été le plus approprié. Mais avec une réticence des enseignants que je peux comprendre par ailleurs. Parce que c'est ça le problème. Hein, c'est que par ailleurs, chez beaucoup d'enseignants, et pas forcément... comment dire, pour de mauvaises raisons, hein, la politique du socle représente un tournant non dit dans ce que c'est le métier, ses finalités, ses objectifs, etc. Donc j'entendais ce matin Marcel Gaucher dire sur France Inter, là, puisqu'il vient de publier un livre sur l'école, que un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il parlait de la question du genre, hein, de toutes les... les polémiques autour de ça, c'est que ça n'a pas été assez débattu publiquement avant de faire l'expérimentation. Mais là, on peut en dire autant. Je pense que la question de le passage, disons, des programmes aux compétences et au socle n'a jamais vraiment été débattu, disons, démocratiquement, publiquement, impliquant tout le monde, les parents, etc. Donc, du coup, c'est bien souvent perçu dans le monde enseignant comme le cheval de Troie. À travers le socle commun, on est en train de nous faire avaler quelque chose avec quoi on n'est pas vraiment d'accord. Je ne dis pas que c'est une opinion générale, mais je l'ai entendu assez souvent pour m'en faire l'écho tout de même.